Chapitre 34. Margate Road.
Tu as l'air perdu, dit le marchand de nouilles en japonais. Kumiko supposa qu'il était coréen. Son père avait des associés coréens dans le bâtiment, d'après ce qu'avait dit sa mère. Comme celui-ci, il s'agissait souvent d'hommes imposants, presque autant que Pétale, avec des visages larges et sérieux.
« On dirait que tu as froid. »«
Je cherche quelqu'un, » dit-elle, « qui habite sur Margate Road. »
« C'est où, ça ?»«
Je ne sais pas. »«
Viens, entre !»
dit le vendeur en lui faisant signe de contourner son comptoir jusqu'à son étal de PVC rose. Elle passa entre le stand de nouilles et un autre qui proposait un plat nommé rôti. Ce mot écrit à la bombe en couleur délirante avec des lettres capitales qui s'achevaient sur des points ronds lumineux. Une odeur d'épices et de ragoût s'en dégageait. Elle avait très froid aux pieds. Elle passa sous une bâche en plastique opaque. L'étal de nouilles était bondé. De petits réservoirs bleus de butane, les trois plaques de cuisson avec leurs grandes poêles, des sacs de nouilles en plastique, des bols en polystyrène empilés et la carcasse mouvante du gros Coréen qui travaillait. « Assieds-toi, » dit-il. Elle s'installa sur une boîte en plastique de GMS, la tête en dessous du niveau du comptoir.
« Tu es japonaise ?»«
Oui,
de Tokyo. »
Elle hésita.
« Tes vêtements, » dit-il.
« Pourquoi tu portes des chaussettes tabis en plastoc en hiver ?
C'est la mode ?»«
J'ai perdu mes bottes. » Il lui donna un bol en polystyrène et des baguettes en plastique. Des gros tortillons de nouilles baignaient dans un bouillon jaune. Elle mangea avidement, puis but la soupe. Elle le regarda servir une cliente, une Africaine, qui emporta des nouilles dans son propre récipient hermétique. « Margate, » dit le vendeur après le départ de la femme. Il sortit un livre papier couvert de graisse dessous le comptoir et le feuilleta. « Là !» dit-il en montrant un petit plan incroyablement dense. « En bas d'Acre Lane. » Il prit un feutre bleu et dessina l'itinéraire sur une épaisse serviette en papier grise. « Merci, » dit-elle. « Je vais y aller. » Sa mère lui apparut en chemin vers Margate Road. Sally était en danger quelque part dans l'étendue. Et Kumiko se disait que Tic aurait un moyen de la contacter, par téléphone ou sinon via la matrice. Peut-être que Tic connaissait le Finlandais, le mort dans la ruelle. À Brixton, le développement en corail de la métropole avait fini par abriter une faune différente. Des visages clairs et foncés, innombrables ethnies. Les façades de briques ravalées avec une profusion de teintes et de symboles inconcevables aux yeux de leurs constructeurs. Le son d'une batterie qui s'échappait de la porte ouverte d'un pub devant lequel elle passa, un rire tonitruant et chaleureux. Les boutiques vendaient de la nourriture que Kumiko n'avait jamais vue. Des rouleaux de tissu éclatants, des outils chinois, du maquillage japonais. Elle s'arrêta devant cette vitrine brillante, étalage de colorants et de rouge à lèvres, son propre visage reflété sur l'arrière-plan argenté. Elle sentit la nuit faire peser sur elle la mort de sa mère. Elle possédait ce genre d'accessoires. La folie de sa mère. Son père n'en parlait pas. La folie n'existait pas dans son monde, contrairement au suicide. La folie de sa mère était européenne, un piège importé de tristesse et de délire. Son père avait tué sa mère, avait dit Kumiko à Sally à Covent Garden. Mais était-ce vrai? Il avait fait venir des médecins du Danemark, d'Australie puis de Chiba. Ils avaient écouté les rêves de la princesse ballerine, avaient mesuré le temps de réaction de ses synapses et pris des échantillons de sang. La princesse ballerine avait refusé leurs médicaments, leur chirurgie complexe. « Ils veulent me trancher la cervelle avec des lasers », avait-elle chuchoté à Kumiko. Et elle avait aussi murmuré d'autres choses. La nuit, racontait-elle, les fantômes maléfiques s'élevaient comme de la fumée de leur boîte dans le bureau du père de Kumiko. Les hommes âgés, avait-elle dit, nous étouffent. « Ton père m'étouffe, la ville m'étouffe, rien ne s'arrête, jamais. » On ne dort jamais vraiment. À la fin, elle ne dormait plus du tout. Sa mère était restée assise pendant 6 jours, muette et parfaitement immobile dans sa chambre bleue européenne. Le 7e, elle avait quitté l'appartement seule. Un exploit étant donné le zèle des secrétaires pour se rendre jusqu'au fleuve glacé. Mais l'arrière-plan dans la vitrine ressemblait au verre de Sally. Kumiko prit le plan du Coréen dans la manche de son pull. Il y avait une carcasse de voiture brûlée à l'angle de Margate Road. Elle n'avait plus de roues. Kumiko s'arrêta à côté et examina les façades anonymes des habitations d'en face. Lorsqu'elle entendit un bruit derrière elle, elle se retourna vers un visage de gargouille déformé sous une masse de boucles grasses à la lumière de la porte entrouverte de la maison la plus proche. « Tic ?»« En fait, c'est Terence, » dit-il en cessant de grimacer. L'appartement de Tic se trouvait au dernier étage. Ceux d'en dessous étaient vides, inoccupés, la tapisserie qui se décollait dévoilant les traces fantomatiques de photos disparues. Elle remarqua qu'il boitait davantage en montant les escaliers devant elle. Il portait un costume gris en shortskin et des Richelieu andins aux semelles épaisses couleur tabac. « Je t'attendais, » dit-il en grimpant une marche puis une autre. « Vraiment ? Je savais que tu t'étais enfui de chez Swain. Je surveille leur trafic quand l'autre me laisse le temps. L'autre ? Tu n'es pas au courant, hein ? De quoi ? La matrice. Il se passe quelque chose. Mieux vaut que je te montre plutôt que de t'expliquer. » De toute façon, je serais incapable de t'expliquer. Je dirais qu'un bon 3/4 de l'humanité est branché en ce moment en train de mater ce qu'il se passe. Je ne comprends pas. Comme un peu tout le monde, il y a une nouvelle macroforme dans le secteur qui représente l'étendue.
Une macroforme ?
Une immense reconstruction de données. Je suis venu pour prévenir Sally. Swain et Robin Lanier comptent la livrer à ceux qui veulent kidnapper Angela Mitchell.
Oh, ne t'en fais pas pour ça.
Dit-il en atteignant le sommet de l'escalier. Sally a déjà récupéré Mitchell et défoncé la gueule de l'homme de Swain dans l'étendue. Il la pourchasse déjà. Bientôt tout le monde sera à ses trousses. Mais on pourra tout de même lui dire quand elle se pointera, si elle se pointe. Tic vivait dans une pièce immense, dont la forme étrange semblait indiquer qu'on en avait fait tomber les cloisons. Malgré sa taille, elle était encombrée. Kumiko avait l'impression qu'on avait dispersé le contenu d'une boutique module d'Akihabara dans un endroit déjà plein, à la Gaijin, avec trop de gros meubles. L'habitation était néanmoins propre et bien entretenue. Les angles des magazines étaient alignés sur les coins de la table basse en verre, près d'un cendrier en céramique noire et un vase blanc de fleurs coupées. Elle essaya à nouveau de faire venir Colin, tandis que Tic emplissait une bouilloire électrique avec une carafe à filtre.
« C'est quoi ?»
demanda-t-il en posant la cruche. « Un module guide de masse néothèque. Mais il ne marche plus. Je n'arrive plus à faire apparaître Colin. »
« Colin ?
C'est un perso en Steam ?
Oui. Fais voir. »
Il tendit la main. « C'est mon père qui me l'a donné. » Tic siffla.
« Ça coûte une blinde. Une de leurs petites IA. Comment ça marche ?
On ferme la main dessus et Colin apparaît. Mais personne d'autre ne peut le voir ni l'entendre. »
Tic leva le module jusqu'à son oreille et le secoua.
« Pourquoi il ne fonctionne plus ?»«
Je l'ai fait tomber. » »«
Ce n'est que le boîtier qui est cassé, tu vois. Le biologiciel n'est plus bien scellé à ce qui l'entoure et tu ne peux donc plus y accéder manuellement. » »«
Tu peux le réparer ?»«
Non, mais nous pouvons y accéder par une interface si tu veux. » Il lui rendit, l'eau bouillait. En buvant son thé, elle lui raconta son voyage dans l'étendue et la visite de Sally à l'hôtel dans la ruelle. « Il l'appelait Molly, » dit-elle. Tic acquiesça et cligna des yeux plusieurs fois de suite. C'était son nom là-bas. De quoi ils ont parlé ?
D'un endroit, du nom de Strelight, d'un certain Case, un ennemi, une femme.
Tessier, Ashpool. J'ai trouvé ça pour elle lorsque j'ai fouillé dans le flot de données de Swain. Swain a vendu Molly à cette dame Free Jane, comme on l'appelle.
Elle a les dossiers les plus croustillants que j'ai jamais vus, surtout et tout le monde. J'ai bien fait gaffe à ne pas regarder tout ça de trop près.
Swain revend certaines de ses infos et y gagne une fortune. Je suis sûr qu'elle a aussi pas mal de ragots sur M. Swain.
Et elle est ici à Londres ? Quelque part en orbite, visiblement, même si certains prétendent qu'elle est morte. Ah, je travaillais là-dessus justement quand le grand type est apparu dans la matrice.
Quoi ?
Tiens, je vais te montrer. Lorsqu'il retourna à la table blanche du petit déjeuner, il rapporta un mince plateau noir et carré avec quelques minuscules commandes disposées sur un côté. Il le posa sur la table et appuya sur un petit bouton. Un affichage holo-cubique clignota au-dessus du projecteur. La grille en néon du cyberespace, parsemée des formes brillantes à la fois simples et complexes qui représentaient de vastes amas de données sauvegardées. Il y a tous les gros machins, là. Les grandes entreprises, un paysage immobile, peu ou prou. Parfois, l'une d'entre elles crée une filiale où l'on assiste à un rachat ou à une fusion. Mais l'on n'en voit presque jamais de nouvelles. Pas à cette échelle. Elles démarrent petites et grossissent, fusionnent avec d'autres boîtes. Il pressa un autre bouton. Il y a 4 heures, et une colonne vertébrale blanche émergea au beau milieu de l'affichage. Ce truc est apparu. Les cubes, sphères et pyramides colorées s'étaient rassemblés aussitôt pour laisser de la place à la tige ronde et blanche. À côté d'elle, il paraissait tout petit et son sommet dépassait de la limite verticale de l'affichage. « Cette saloperie est immense », dit-il avec une certaine satisfaction. « Et personne ne sait ce que c'est ni à qui ça appartient. »«
Quelqu'un doit bien être au courant », dit Kumiko.
« Ce serait logique, oui. Mais tous ceux dans mon domaine, et nous sommes des millions, n'ont pas été en mesure de le découvrir. Ce qui est, d'une certaine manière, plus étrange que sa simple présence. J'ai parcouru toute la grille avant que tu arrives à la recherche d'un cow-boy qui aurait la moindre info. Mais j'ai trouvé que dalle. Comment cette Free Jane pourrait-elle être morte ? Mais elle repensa alors aux Finlandais, aux boîtes dans le bureau de son père.
Il faut que j'en parle à Sally.
Pour ça, on ne peut rien faire d'autre qu'attendre, dit-il. Elle va bien appeler. D'ici là, on pourrait tenter d'accéder à ta super petite IA, si tu veux.
Oui, merci.
J'espère seulement que les gars de la branche spéciale engagée par Swain ne t'ont pas suivi jusqu'ici. Dans tous les cas, on ne peut rien y faire. Suffit d'attendre.
Oui, dit Kumiko, que l'idée de patienter ne réjouissait pas du tout.